Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO en sigle, la RDC dispose de près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables dont 1% seulement cultivées. Par ailleurs, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. La végétation de la RDC peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes. 40 millions de têtes et avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes dans le monde. Mais force est de constater que des millions de Congolais souffrent de la faim et beaucoup d'autres, notamment les enfants, sont terrassés par la malnutrition. Malgré différents programmes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la RDC pour booster l'agriculture, ce secteur peine à se développer car les gros désinvestissements financiers sont alloués au secteur minier. À ce jour, on parle de la revanche du sol sur le sous-sol, mais pour certains experts en agroalimentaire, ces slogans risquent de ne pas porter des fruits aussi longtemps que les agriculteurs ne vont pas bénéficier des facilités pour accéder aux semences et autres intrants agricoles. Mais aussi la grande question qu'elle s'oppose, c'est de savoir pourquoi la RDC n'arrive pas à emboîter les pas d'autres pays africains, plutôt de continuer à importer des produits tels que le maïs et autres denrées alimentaires. Que doit faire la RDC pour arriver à exploiter à court terme 20 millions d'hectares de terres arables sur les 80 millions dont elle dispose? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse par courriel à l'adresse pia@radiocapi.net ou appeler au 099-716-80-79. Hippolyte Kapanga est à la mise en nom de ce magazine. Je le fais à Bongonda sur la réalisation, la coordination au micro. C'est Marcel Ngomombala, toutes et à tous. Excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces potentialités dont dispose la RDC, notamment avec près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et là, par ailleurs, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. La végétation de la RDC peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Et avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes dans le monde. Mais force est de constater que des millions de Congolais souffrent de la faim et beaucoup d'autres, notamment les enfants, sont terrassés par la malnutrition. Malgré les différents programmes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la RDC pour booster l'agriculture, ces secteurs peinent à se développer car les gros des investissements financiers sont alloués au secteur minier. À ce jour, on parle de la revanche du sol sur les sous-sols, mais pour certains experts en agroalimentaire, ce slogan risque de ne pas porter de fruits aussi longtemps que les agriculteurs ne vont pas bénéficier des facilités pour accéder aux semences et autres intrants agricoles. Mais aussi, la grande question que l'on se pose évidemment, c'est de savoir pourquoi la RDC n'arrive pas à emboîter les pas à d'autres pays africains et continue à importer des produits tels que les maïs et autres denrées alimentaires. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à cette question. Nous vous disons merci. On va lire quelques-unes de vos réactions tout au long de, pendant, au cours de ce magazine. Et pour en parler, nous avons en ligne le professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en agroalimentaire. Professeur Jean-Claude Bouanganga, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel Ngombo, et bonjour à...
Professeur, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Ah, voilà. Voilà, professeur, avec vous, vous êtes expert en agroalimentaire. On va essayer de développer ces sujets, notamment pour ce qui est du secteur agricole en RDC. On parle aujourd'hui de la revanche du sol sur le sous-sol, mais pour certains experts dont vous faites partie en agroalimentaire, ces slogans risquent de ne pas porter de fruits aussi longtemps que les agriculteurs ne vont pas bénéficier des facilités pour accéder aux semences et autres intrants agricoles, mais aussi longtemps que le secteur agricole ne va pas bénéficier des financements importants, parce que jusque-là, c'est plutôt que tous les gros des investissements sont tournés vers le secteur minier et il est temps, en tout cas pour de nombreux Congolais, qu'on puisse développer des stratégies de faire en sorte que la RDC puisse arriver à nourrir sa population, à produire davantage pour nourrir la population, pourquoi pas aussi exporter, parce que la RDC dispose de près de 80 millions de terres arables. Les professeurs, est-ce qu'à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut arriver à exploiter même 20 millions de terres arables? Je m'en vais lire quelques réactions sur la page Facebook. Parole aux auditeurs. Cette réaction de Possien Bilomba qui nous écrit depuis Mbujimayi. Pour permettre à la RDC d'exploiter efficacement 20 millions d'hectares de terres arables à court terme, plusieurs mesures stratégiques peuvent être envisagées. Investissement dans les infrastructures agricoles, soutien à la recherche et à l'innovation, renforcement des capacités des agriculteurs, facilitation de l'accès au financement, amélioration des politiques agricoles, renforcement de la sécurité alimentaire. En appliquant ces stratégies, la RDC pourrait optimiser l'utilisation de ses terres arables et améliorer sa sécurité alimentaire tout en réduisant sa dépendance aux importations alimentaires. Là, c'est Possien Bilomba qui nous a écrit sur la page Facebook par aux auditeurs depuis la ville de Mbujimayi au Kassai oriental. Une autre réaction, c'est celle de Pascal Kankou depuis Kananga. À la question de savoir pourquoi la RDC n'arrive pas à emboîter les pas d'autres pays, nous répondons en disant que la plus grande cause est qu'il n'y a pas de politique agricole dans notre pays. Peut-on se demander quelles sont les attributions du ministère de l'Agriculture? N'y a-t-il pas le ministère de l'Agriculture dans ces pays? Si réellement ce ministère existe, quelles sont les initiatives qui sont prises en compte pour booster le développement dans ces secteurs? Voilà, la RDC est l'unique pays au monde qui importe même ce qui n'est pas importable et les gouvernements trouvent ça normal. Ce que la RDC doit faire pour exploiter les terres arables et mettre fin à l'importation, c'est d'abord donner priorité à l'agriculture. Tout le monde doit s'approprier ces secteurs et quant au gouvernement congolais, financer le privé. Autre réaction, c'est Ismaël Mopoy qui nous écrit depuis Lubumbashi. On fait signe que l'invité est de nouveau en ligne. Pour ce Jean-Claude Banganga, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis là, monsieur Marcel.
Voilà, j'espère qu'on va pas avoir des soucis tout au long de cette émission avec les lignes téléphoniques. Alors, professeur, on va parler du secteur agricole en RDC. Comment expliquer qu'un pays, en tout cas selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la RDC dispose de près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, dont seulement 1% est cultivé. Par ailleurs, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active et la végétation de la RDC peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Et avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes dans le monde. Mais on souffre encore de la faim en RDC. Il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim en RDC. Il y a des millions d'enfants qui sont terrassés par la malnutrition. Alors, professeur, sur les 80 millions d'hectares de terres arables, et s'il faut exploiter à court terme, prenons 20 millions de terres arables, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on veut vraiment qu'on aille dans les concrets.
Merci pour l'invitation. Je crois que je ne vais pas revenir sur toutes les considérations que nous avons déjà développées au niveau de votre chaîne sur le développement du secteur agricole. Mais je voudrais d'entrée de jeu vous dire, M. Marcel Ngombo, que la faim est une injustice. La faim est une, à mon avis, irresponsabilité de l'élite. Et la faim, j'ai même envie de dire qu'elle entrave les libertés de choix pour la population. Et nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'élite, nous avons la responsabilité de déverrouiller notre secteur agricole. Vous savez, M. Marcel, tout le chapelet des bonnes intentions que vous avez cité, qui se retrouve dans tout le programme, ont montré leurs limites. Ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est que l'agriculture d'un État a trois rôles fondamentaux. C'est d'abord de soutenir les populations pauvres, Deuxièmement, de soutenir les agriculteurs, parce que les agriculteurs sont vulnérables. Je pense avoir dit à la radio Capi que l'agriculture elle-même est une activité qui n'est pas rentable, mais qui est prioritaire. Et donc, les efforts de l'État doivent être orientés vers les producteurs agricoles. Je vais vous expliquer plus ou moins comment ça peut se faire. Et à la fin, la politique agricole d'un pays doit avoir pour objectif d'atteindre la sécurité alimentaire. Mais le problème de notre agriculture, M. Marcel Ngombo, c'est que si vous étudiez la chaîne de valeur agricole, vous allez vous rendre compte que nous ne nous retrouvons nulle part. Si vous regardez de très près une chaîne de valeur agricole, vous allez voir que le premier maillon, c'est le maillon technologie, production de semences, production d'engrais, etc. Et au niveau de ce maillon-là, nous ne nous retrouvons pas. Le deuxième maillon, c'est le maillon production des denrées. Et donc, encore une fois, sur ce maillon-là, nous ne nous retrouvons pas. Mais je peux vous citer tout le maillon, le négoce, la transformation, le commerce en détail, etc. Mais si vous regardez de très près sur le 100% de valeur ajoutée, il n'y a que 12% de valeur qui se retrouve sur le maillon production. Autrement dit, si on ne fait pas attention, on investit sur une activité qui ne représente que 12% de valeur. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va y mettre de l'argent, mais on ne va pas récupérer suffisamment de valeur sur l'agriculture de notre pays. La conséquence, c'est que aujourd'hui, même si on décide d'augmenter la production de maïs, par exemple, ça va être le maïs qui va nous servir à manger. Alors que ça ne devrait pas se faire comme ça. Il n'y a pas un seul maïs. Il y a beaucoup de types de maïs. Et donc, il faut que la politique agricole du pays se positionne sur les chaînes de création de valeur pour que nous puissions capter le plus de valeur possible. Nous avons parlé avec vous le plus récemment sur le manioc. Nous avons dit qu'il y a le manioc panifiable, le manioc qu'on utilise pour produire le foufou, etc. Ces maniocs-là ne vont pas être développés, donc les chaînes de valeur de ces maniocs ne vont pas être développées de la même manière. Alors, le gros problème maintenant, c'est quoi? C'est que si vous regardez l'industrie agroalimentaire mondiale, donc les chaînes de valeur agroalimentaire mondiale, vous allez vous rendre compte que si vous prenez les entreprises d'agrochimie et de technologie, quasiment 3 entreprises contrôlent la totalité des technologies en agrochimie. 3 entreprises seulement. Et dans ces entreprises, il n'y a aucune entreprise africaine, aucune entreprise congolaise. Si vous allez dans les entreprises, par exemple, dans les entreprises de production de semences, vous allez voir que les variétés qui sont proposées ne sont pas nos variétés. Et d'ailleurs, la FAO, parce que vous en avez parlé, à un moment donné, la FAO avait tiré la sonnette d'alarme pour dire que la biodiversité agricole s'est réduite quasiment de 75% entre 1900 et 2000. Donc, vous allez retrouver, par exemple, 12 variétés de plantes et 5 races d'animaux qui circulent dans le monde de création de valeur agricole. Et dans ces systèmes-là, nous ne nous retrouvons pas. Donc, la politique, c'est pas ce que je saurais dire ici. On va peut-être répondre aux réponses de nos auditeurs. Mais je crois que la stratégie qu'il faut mettre en place, c'est pas une stratégie que je vais développer ici, mais nous allons approcher le ministère de l'Agriculture parce que ces entreprises sont très concentrées. Très concentrées, M. Marcel Ngombo. Donc, aujourd'hui, ouvrir une brèche pour valoriser l'agriculture en RDC, c'est une brèche difficile. Je vous donne un exemple. Nous avons 2 grandes brasseries en République démocratique du Congo. Il faut qu'on développe des matières premières qui vont être absorbées par ces 2 grandes brasseries. Mais comment nous allons le faire si nous n'avons pas d'entreprises d'agrochimie et de technologies qui vont nous permettre d'avoir les spécifications nécessaires qui vont répondre aux exigences des industriels. Donc vous voyez que c'est très complexe, c'est vraiment complexe cette histoire, parce que sinon, avec tous les programmes que nous avons, tous les beaux programmes que nous avons, on aurait déjà réussi à le faire mais je crois que c'est une entreprise qui n'est pas facile.
Est-ce que vous pensez, professeur, qu'il faut peut-être davantage d'investissement dans ces secteurs?
C'est investir, ça veut dire que si on doit investir, on va investir dans tous les segments. Donc, quels sont les investissements qu'on doit faire au niveau des entreprises d'agrochimie et des technologies? Là, je viens de vous dire que ce sont des entreprises qui produisent des semences, qui produisent des engrais, qui produisent des pesticides, qui produisent des technologies, des machines qui servent aux producteurs. Et puis, vous avez des producteurs qui se retrouvent entre les industriels, non, les négoces se retrouvent entre les producteurs et les industriels. Donc, il y a des entreprises de négoces qui négocient les spécifications des matières premières auprès des industriels et qui viennent former les agriculteurs pour que leur production réponde aux spécifications des industriels. Et puis, vous avez les industriels qui vendent au supermarché. Vous savez que les supermarchés, seulement les supermarchés, ça vous prend 37% des bénéfices de la chaîne des valeurs agricoles. Donc, vous comprenez que c'est compliqué parce que le partage des valeurs va des industries de technologie et d'agrochimie jusqu'au supermarché. Comment nous allons faire pour que là-dedans, le pays se retrouve, que le pays se retrouve non seulement dans les industries des technologies, comme je vous ai dit, qui prennent 7% de bénéfices, mais qu'on se retrouve aussi dans la production primaire, qui prendra environ 12% de bénéfices, qu'on se retrouve dans les négoces, qui prennent environ 8% de bénéfices, la transformation, ça vous prend à peu près 22%, le commerce en détail, donc le supermarché, prennent 37% de profit. Vous voyez que le profit récupéré par les agriculteurs seuls ne suffit pas pour développer le secteur agricole. Autrement dit, ça va demander beaucoup trop d'efforts à l'État d'investir dans le secteur agricole.
Mais ça va demander...
en termes de subventions si l'État n'arrive pas à récupérer les autres valeurs sur les chaînes de valeur.
Voilà. Bon, pour ça, on revient à vous. Il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Nous avons maître Patrick Audia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la pays, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du secteur agricole en RDC, un secteur qui peine à se développer malgré les différents programmes qui ont été mis en œuvre. En tout cas, qui se sont succédés, j'allais dire, avec les différents gouvernements. Et on en parle donc avec le professeur Jean-Claude Bouanganga, qui est expert en agroalimentaire. Si vous voulez intervenir, vous pouvez composer les zones en 9, 7, 1 et 6, 80, 79. Voilà, on va y aller déjà avec le premier auditeur qui est en ligne, maître Patrick Audia, qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Bonjour maître Patrick Audia.
Bonjour Marcel, bonjour professeur et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole.
Merci de m'associer à ce niveau du débat pour une question importante. Lorsque je lisais les sujets hier soir, j'avais deux sentiments. Le premier, j'avais le sentiment de ne pas être congolais. Deuxième également, j'avais le sentiment d'être haï par Dieu lui-même le Père. Mais je me suis rattrapé en disant que peut-être... dans cette génération, il y aurait ceux qui pourront relier la théorie à la pratique. Ici, je m'en vais tout simplement demander à la Première ministre également qui a présenté un programme au travers à l'Assemblée nationale lors de son investiture et qui avait mis au premier plan l'agriculture, le financement. Et rappelez-vous, nous avons même fait des émissions avec vous, Marcel, rappelez-vous les fois dernières ici, où nous avions même proposé la création d'une banque agricole. Tout ceci pour permettre à ce que, non seulement la création d'une banque agricole pouvant permettre de financer le petit projet ou les grands projets en termes d'agriculture et agroalimentaire, mais aussi nous avons parlé de l'interconnexion de provinces ou de villages, de milliers ruraux également. Voilà les deux domaines également qui posent problème au jour d'aujourd'hui. Je m'en vais également parler. Nous avons reçu le DG de BCECO qui parlait de l'interconnectivité pour permettre à ce que l'agriculture et l'agronomie soient également effectives dans ces pays. Kalamba Mbujikananga, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez demander au BCECO
où en sommes-nous avec les projets, alors que ça a été annoncé par la première ministre. Vous savez que les problèmes dans ce pays, c'est manque de leadership éclairé et exceptionnel. Vous avez le ministre de l'agriculture et action alimentaire, c'est pas moi, bonne nutrition, action alimentaire également, qui au jour d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas la politique, et pourtant, on nous a vanté qu'il avait un CV expérimenté, mais jusqu'à là, est-ce que pouvez-vous également lui demander quelle est la politique qu'il a déjà mise en place en termes d'agriculture également? Je pense que nous sommes beaucoup plus dans la théorie. Nous pouvons parler, nous connaissons, nous avons 80 millions de terres arables, nous avons ceci. Oui, nous connaissons ça. Ça même, les gens qui n'ont jamais été en RDC, ils savent ça. Que devons-nous faire? Quittons la théorie.
Maître Patrick, attendez, je voulais juste réagir par rapport au ministre de l'Agriculture, à vous rassurer que nous avons déjà pris des contacts avec lui. Certainement, dans le tout prochain jour, on pourra l'avoir comme invité pour expliquer un peu sa vision pour développer le secteur agricole en RDC. Donc, je peux vous rassurer qu'on finira par l'avoir. Allez-y.
Certainement. Je serai très actif lors de son passage également. J'ai l'impression, Marcel, vous m'avez toujours laissé de parler, j'ai l'impression que la première ministre actuelle ne maîtrise pas la situation. D'ici, nous allons évaluer 100 jours après l'investiture, mais dites-moi, quelle est la politique agricole? Dans quel pays, dans quelle province, dans quelle région? Et quels sont les indicateurs? Parce que l'on peut parler du développement agricole en RDC également. Il faut qu'on y aille par les indicateurs, qu'à tel moment, il faut qu'il y ait ça, ça, ça. Je prends le professeur, sous le contrôle du professeur, est-ce que peut-il nous dire aujourd'hui, en termes d'agriculture, du projet agricole en RDC, quels sont les indicateurs et où en sommes-nous réellement avec la politique gouvernementale dans les domaines agricoles et actions alimentaires également? Il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis à Lubumbashi, nous achetons un sac de farine à 60 000 à 55 000 francs. On vous dit même que même si nous achetons 55 000 francs, ça a été importé et ces sacs de farine, c'est de très mauvaise qualité également. Vous avez vu la guerre entre le ministre du Commerce extérieur et la Zambie également. Tout ceci parce que nous n'avons pas un leadership, une bonne gouvernance, des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes plus dans la théorie et je pense que les 100 jours de la première ministre, j'ai l'impression que le gouvernement ou la charge du gouvernement lui passe en pleine scie et qu'elle n'arrive pas à maîtriser les contours de chaque domaine. Nous pouvons bien parler l'éducation, nous pouvons parler la justice, mais dès lors que les Congolais, maître Odier qui vous parle, n'a pas encore mangé peut-être hier ou aujourd'hui, ça ne servira à rien. Je pourrais parler de la corruption, je pourrais parler de tout ceci, mais dès lors que les premiers besoins de la population qui ne sont autres que manger et la bonne santé, heureusement que nous avons fait des émissions sur la bonne santé également, avant-hier sur Radio Capi, avant-hier sur d'autres chaînes également. Mais ces questions ne sont pas... Je ne sais pas en quoi le gouvernement congolais est-il responsable. Nous sentons qu'il n'y a pas de ministres dans ces pays et qu'il n'y a que des opportunistes, souffrez que je le dise, qui, au lieu de mettre une politique éclairée, pratique et pragmatique pour essayer de contrer... Nous savons que nous n'allons pas atteindre 40 millions d'hectares dans 6 mois, dans 7 mois. Mais au moins, nous pouvons y aller par des indicateurs. Est-ce que, monsieur le ministre, excellence, ministre de l'État, est-ce que pouvez-vous nous dire à quel moment, ou à quelle date, et quels sont les indicateurs, et quelle est la politique dans chaque province, tout en prenant également les réalités des provinces? Que faire? Je pense que cette gouvernance mérite mieux d'être sanctionnée en 2028.
Maître Patrick, écoutez-moi d'abord s'il vous plaît. Il faut éviter de partir très vite en besogne. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. On sait également que le gouvernement essaie de travailler tant bien que mal. Mais lorsqu'on aborde certains sujets, on essaie d'apporter notre contribution plutôt que toujours de revenir sur les mêmes choses tirées à boulet rouge sur le gouvernement. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, l'intérêt, vous avez dit des choses très, très intéressantes. Par exemple, parler des indicateurs actuellement dans les secteurs agricoles, j'y pense, c'est des sujets qu'on pourra...
Oui, allez-y. Je connais un monsieur qui se débrouille mieux. Il est professeur également, professeur Onoya. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'essaie de voir les programmes ou les projets qu'il essaie de mettre en place. Vous pouvez les chercher, il peut passer même à la radio Capi.
Oui.
Je n'ai aucune relation avec lui. Oui. Mais il faut voir, il a des programmes pragmatiques sur les points agricoles. Je pense que le professeur les connaît également. Il enseigne à l'INIKIN et dans d'autres universités. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce monsieur a-t-il été approché pour qu'il apporte également ce morceau? Moi, je suis juriste, je ne connais pas le domaine. Mais j'ai vu les effets induits de la mauvaise gouvernance. Laissez-moi en parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à Lubumbashi, c'est 56 000, 70 000, 60 000, j'y arrive. un sac de farine. Si à Lubumbashi, nous sommes proches de la Zambie, a fortiori au Kasaï chez moi, a fortiori à Goma chez nous, a fortiori à Kisangani également, qui sont là d'autres pays également, qui peuvent leur fournir également. Bref, je pense qu'il y a lieu de créer une banque agricole, purement agricole, avec des financements, mais aussi permettre à ce qu'il y ait l'interconnectivité des provinces.
Voilà, ce sont là de bonnes suggestions, Maître Patrick Odia, la création d'une banque agricole, même si on se rappelle, il y a encore, lors des années mobutistes, il y avait une banque de crédit agricole qui, malheureusement, qui n'a pas bien fonctionné, simplement parce qu'il y a des Congolais, des Aigrois à l'époque qui prenaient des crédits pour des projets agricoles, mais il n'y avait pas de suivi par rapport à cela. Donc cette fois-ci, l'idée, c'est une banque agricole. Il faut s'assurer que le crédit alloué va réellement servir au secteur agricole. Même vous avez parlé également... Exactement. Voilà, merci Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. On va lire deux réactions sur la page Facebook par les auditeurs et puis on pourra revenir au standard ou retrouver notre invité. Il y a Dr Emmanuel Alumbi Boudouma qui nous écrit depuis Dungu, en province de Haut-Uele. Aucun pays du monde ne s'est développé sans la mise en pratique d'une bonne politique agricole. Les pays ne vivent que des importations du denrées alimentaires étant un facteur de sous-développement. Il faudrait transiter de l'agriculture paysanne à une agriculture industrialisée et sans corruption, sans détournement, sans impunité, c'est encore possible. La RDC bénéficie seulement de 1% de ces terres arables. Quelle folie mentale. Faut-il construire des stades pour contempler le peuple affamé, crier de joie? Ça, c'est Emmanuel Alumbi Boudouma depuis Dungu, dans la province du Haut-Uele. Grèce qui a voulu nous écrit depuis Kindomaniement. Je vais lire cette réaction un peu plus tard. Il est temps pour nous de prendre Peter Maboudi, puisqu'on a quelques soucis avec nos lignes téléphoniques. Peter Maboudi nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les amis de Radio Capi.
Vous avez la parole.
Oui, merci Marcel, nous ne le dirons pas assez, mais c'est Marcel, comme nous l'avons toujours dit sur vos antennes, que le développement du Congo passe par un leadership fort, éclairé, et surtout dans les secteurs agricoles, mais c'est Marcel, au regard des potentialités que regorge la République de du Congo, aujourd'hui le pays ne devrait pas être commandeur de toutes choses, même les aliments, tout ça. Mais du fait que il y a une très mauvaise politique de gouvernance du pays et cela a des répercussions sur la vie sociale des communautés. Monsieur Marcel, la solution demeure dans le leadership et surtout sur le modèle que nous avons toujours l'habitude de proposer sur vos antennes. Le pays a besoin d'un modèle budgétaire sectoriel. Tant qu'on n'aura pas ce modèle du budget dans notre pays, il est difficile de s'attendre au développement et également aussi résoudre le secteur agricole. Nous avons toujours dit qu'il faut commencer par quelque chose. Ce qui complique au Congo, c'est les voies d'accès. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs artisanaux qui sont dans nos villages, dans nos territoires, qui exploitent nos terres. Mais dans quelles conditions ces gens-là exploitent? Et quelles sont les voies d'accès ou d'évacuation de leurs produits? Donc, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser. Nous étions en campagne en 2024 et tous les élus nationaux ont la situation du pays en général entre leurs mains. Quel est le modèle aujourd'hui qu'ils ont proposé pour développer le Congo? C'est difficile, M. Marcel. Donc, le problème majeur, c'est d'abord de penser d'abord aux infrastructures routières. Tant que le pays ne sera pas connecté, donc il est difficile de s'attendre au développement. Et M. Marcel, comme nous l'avons toujours dit, en dehors des secteurs agricoles, routiers, et cela pourra favoriser également l'évacuation des produits sur les centres de consommation. Donc tant que nous n'aurons pas ce modèle, je crois qu'il est difficile de parler. Aujourd'hui, on nous chante les pays riches, potentiellement riches, mais toutes les richesses-là ne profitent pas aux Congolais. Pourquoi cela ne profite pas aux Congolais? C'est parce qu'on n'a pas une vision claire, on n'a pas un leadership clair et exceptionnel pour que cela soit profitable au peuple congolais. Donc, il est temps de repenser notre système de gouvernance afin d'espérer à un changement.
Voilà, merci. Merci Peter Maboudi depuis Kinshasa. Vous pensez qu'il faut absolument voir dans quelle mesure essayer de réhabiliter ou construire de voies de dessertes agricoles ou qui vont permettre d'évacuer les produits pour vous. Ça peut faire partie des solutions parce qu'on a, on le dit souvent, il y a des produits agricoles qui pourrissent dans certains villages pour faute de routes praticables pour les évacuer. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. On revient à notre invité, le professeur Jean-Claude Banganga. Vous avez déjà suivi les réactions des uns des autres. Vous avez suivi Maître Patrick Audien qui a pensé à la création d'une banque agricole. Cela pourrait être une solution pour booster le secteur agricole en RDC, mais aussi l'interconnectivité entre les territoires et villages de la RDC. Et vous avez également suivi Peter Maboudi qui a insisté sur le fait que il n'y a pas de voie de desserte agricole praticable, ce qui fait que des fois on peut avoir des produits mais on a du mal à les évacuer, et ce qui décourage les agriculteurs. Qu'est-ce que vous en dites, professeur Jean-Claude Banganga?
Professeur Jean-Claude, la même chose, mais je peux vous rassurer, monsieur Marcel, vous m'entendez?
Oui, c'est bon, allez-y, on vous écoute.
Je peux vous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Ça commence à me donner un peu espoir. Je sais que les résultats ne seront pas tout de suite palpables, mais ça commence à donner un peu espoir. Je prends le modèle manioc. Maintenant que je vous parle, j'ai suivi, je sais pas si c'était à la radio Capu ou ailleurs, j'ai suivi que l'IITA était en train de former des vulgarisateurs qui vont former les agriculteurs dans la production de manioc panifiable. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes au tout début de la chaîne, au tout début. C'est vraiment le tout premier maillon, mais c'est pas suffisant. Produire des semences, c'est bien. Mais les agriculteurs auront besoin d'autre chose, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, etc. Ça, déjà, comme l'État a pris l'engagement de le faire comme ça, c'est déjà bien parce que ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent que les agriculteurs ne peuvent pas avoir. Ça, ça fait partie des subventions de l'État. Quand on dit que l'État doit subventionner, ça ne veut pas forcément dire donner de l'argent directement. L'État peut mettre de l'argent dans des segments qui ne peuvent pas être financés par les agriculteurs eux-mêmes. Donc, on rentre sur le premier maillon. Donc, l'ITA produit forme de producteurs de semences. Ces producteurs de semences doivent vendre les semences aux agriculteurs. Autrement dit, on doit aussi former les agriculteurs qui vont produire le manioc panifiable. Donc, il y a le troisième maillon qui est entre les producteurs et les industriels. Ce maillon, pour le cas du manioc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir auprès des industriels pour leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez que votre manioc soit? Vous voulez qu'il soit comment? On définit les propriétés du manioc en question. Et puis, on rentre vers le producteur pour leur dire, voilà comment vous devez produire. C'est comme ça qu'on développe une chaîne. Et je vous dis, là je remercie quand même le ministre de l'Agriculture, parce que je suis chercheur, je fais de l'innovation agroalimentaire, et je voulais m'insérer dans la chaîne des valeurs manioc, parce qu'en dehors de ça, nous sommes dans d'autres chaînes de valeurs. Mais nous avons quand même eu une exonération sur les équipements que nous avons achetés. Donc ça, c'est aussi une façon de l'État de subventionner l'activité agricole. Parce que l'agriculture, c'est pas seulement prendre des tracteurs et puis semer. Ça sert à quoi tout ça? Il y a beaucoup de choses qui vont avec pour rentabiliser l'agriculture. Parce que rassurez-vous que l'État ne va pas continuer à mettre de l'argent dans un secteur qui ne produit rien. Soyons honnêtes, monsieur.
Voilà, Marcel, professeur.
Comment voulez-vous...
Professeur, permettez, professeur,
dans une activité qui n'est pas rentable.
Permettez qu'on
comment voulez-vous?
Professeur, permettez qu'on revienne à vous, le temps de retourner vers le standard pour prendre, écoutez, bienvenue Kikala, qui est ingénieur agroéconomiste et qui nous appelle depuis la ville de Kikwita. Bienvenue Kikala, bonjour. Festine qui n'est plus en ligne. Alors on va poursuivre, attendre de poursuivre avec le professeur Il y a quelques réactions que je m'en vais lire. Il y a Grace qui a voulu, qui nous a écrit depuis la ville de Kindo-Maniema. En réalité, la population de la RDC ne se soucie pas de problèmes de l'agriculture. Vous allez voir, beaucoup de Congolais se soucient que de la politique pour s'enrichir rapidement. Or, dans d'autres pays, la culture de terre arable joue un rôle très capital. Pour relever les défis, la population congolaise doit se focaliser à la culture de ces terres arables pour permettre de nourrir sa population. Voilà, ça c'est la réaction de Grace qui a voulu. Une autre réaction, c'est celle de Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. On fait signe qu'il y a Roger Marcel en ligne. On a des soucis avec nos lignes téléphoniques aujourd'hui. Voilà, lorsque chaque fois qu'il y a un auditeur en ligne, on s'empresse de l'avoir pour l'écouter. Roger Marcel, vous nous appelez depuis Kinshasa. On vous écoute, Roger Marcel.
Bonjour monsieur Marcel, bonjour à l'invité et bonjour à tous les amis qui viennent de la fête.
Vous avez la parole, on vous écoute. Essayez de dynamiser un peu votre voix, Roger Marcel.
Ouais, je disais, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je trouve vraiment le sujet qui est vraiment intéressant. Monsieur Marcel, vous savez, en République démocratique du Congo, Dieu nous a donné tout. Mais ce sont nos dirigeants qui nous trahissent. Parce que si vous regardez un jour, il y avait...
Roger Marcel, vous avez une radio à côté de vous ou une radio ouverte à côté de vous?
Non, j'ai pas. Non, j'ai déjà stoppé ça.
Bon, allez-y, on a quelques soucis avec votre ligne. Allez-y.
Ouais, je disais, Dieu nous a donné tout, mais c'est par rapport à nos dirigeants que nous avons qui nous ont pas une vision vraiment claire. Parce que si vous regardez en République démocratique du Congo, on a des espaces, mais il faut que l'État congolais puisse mettre tous les moyens pour que les Congolais puissent se retrouver. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a un certain jour, il y avait une émission sur Okapi Service, où il y a un sénateur américain qui a dit la plupart des 80 hectares que la RDC possède, on a déjà plus vendu 60%. Donc, sur 80, on reste plus de 40%. Quand vous analysez un sénateur américain qui est venu faire des recherches et puis il a confirmé ça au niveau des États-Unis. Je trouve que non, on a des dirigeants qui n'ont pas vraiment une vision claire. Je pense l'année passée, avec le premier mandat du chef de l'État, il y avait le ministre de l'Agriculture qui avait fait des états généraux pour dire non, avec ces états généraux, la RDC pouvait quand même avoir. Aujourd'hui, regardez au niveau de la Zambie avec le ministre de l'Industrie, on a eu même avoir des farines qui viennent périmer, des farines que les gens consomment à travers les temps, il y aura quand même des maladies. Mais si dans notre pays, on arrive quand même, nous, avec, on a eu un bon programme de boucangalose, si l'État congolais avait mis tous les moyens en cultivant pour que le peuple se retrouve. Aujourd'hui, si vous allez même au niveau du Parlement, lorsqu'on vote les budgets, au niveau de l'agriculture, on donne combien? Si vous regardez, c'est 2% ou 3%. Mais dans d'autres secteurs, l'État cherche à faire sortir beaucoup d'argent. Ou quand l'argent sort, il y a des détournements partout. Il faut quand même qu'on puisse avoir de bons dirigeants. Je pense qu'en 2028, on pourrait quand même voter des bons dirigeants qui ont vraiment une vision claire pour aider les pays.
Voilà, merci Roger. Merci Roger Marcel d'avoir appelé depuis Kinshasa. Je reviens à notre invité, le professeur Jean-Claude Boganga. Professeur, vous avez souvent l'habitude de dire que l'agriculture, c'est une activité qui n'est pas rentable, mais prioritaire. Pourquoi cette façon de voir les choses?
Oui, mais parce que, monsieur Marcel, je vais vous donner un exemple. Il y a l'année passée, je crois, dans le Kwilu, chemin dans le Kwilu, il y a eu une épidémie bovine. Il y a des gens qui perdaient, le même jour, 200 têtes de gros bétail. Je dis bien le même jour. 200 têtes perdues le même jour. Vous vous imaginez, c'est combien d'années d'efforts. Et qu'est-ce que ces gens ont eu après? Ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. C'est une activité très risquée. C'est une activité qui n'est pas rentable. Il n'y a pas une seule banque qui va vous donner de l'argent parce que vous faites de l'agriculture ici en RDC. Surtout avec notre agriculture ici. J'ai toujours dit que notre agriculture...
Mais à l'époque, il y avait une banque de crédit agricole, professeur Bouanganga.
Non, mais monsieur Marcel, banque de crédit agricole, on donne... Les banquiers ne donnent pas de l'argent comme ça. Les banquiers, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ne viennent pas vous donner de l'argent parce que vous êtes beau. Ils vous donnent de l'argent parce que vous allez rembourser. parce que vous allez mettre dans une activité qui vous permettra de rembourser. Non, ne faisons pas les choses de façon périphérique, mais je crois que la démarche qui a commencé avec le ministre Julien Paluku et qui se poursuit maintenant, elle est bonne. Elle est bonne même si, au début, on n'a pas mûri suffisamment cette démarche. C'est que quand on veut développer une chaîne de valeur, on regarde d'abord quel est le potentiel du marché. Je crois qu'ils se sont rendus compte que nous mangeons beaucoup de pain. Donc c'est un marché potentiel qui peut se développer. On sait qu'on peut vendre encore ailleurs. Est-ce que il y a une, enfin, comment je vais dire, est-ce qu'il y a la viabilité technique? Est-ce que nous savons le faire? Oui, nous avons des universités, nous avons des centres de recherche qui peuvent le faire. Est-ce que c'est rentable? Oui, on peut rentabiliser le manioc si on utilise le manioc dans la production du pain, etc. Est-ce qu'il y a un impact environnemental et social? Oui, nous aurons beaucoup d'agriculteurs qui vont être impliqués dans la chaîne des valeurs. Est-ce que nous avons les infrastructures? C'est à ce moment-là qu'on voit. Ben, si le manioc est produit à Bandounouville, pour que ça arrive ici, ben, il faut des routes. Quels sont les risques? Si vous n'étudiez pas ça, M. Marcel Mbobo, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Et je suis fatigué de le dire tout le temps. Parce que si on ne le fait pas comme ça, nous aurons des programmes et des programmes qui seront financés, même si on dit qu'on ne donne pas beaucoup d'argent à l'agriculture, mais le ministère fonctionne. Alors sinon, si vous ne voulez pas ça, fermons le ministère, distribuons cet argent à la population, que la population achète la nourriture. Parce que une agriculture comme la nôtre là, si vous investissez dedans, il n'y aura absolument rien.
Mais professeur, s'il vous plaît.
Vous avez parlé de l'agriculture, mais vous parlez de quelle agriculture? Je vais vous donner une espèce d'ordre de grandeur pour nos rendements. Vous savez que pour les rendements racines tubercules, nous sommes à moins de 10 tonnes à l'hectare. Pour le maïs, nous sommes ici en RDC en moyenne, hein. Nous sommes à moins d'une tonne à l'hectare. Pour le riz, on est à moins de 2 tonnes. Pour le sorgho, moins d'une tonne. Pour l'arachide, environ une tonne. Vous voulez investir dans une agriculture comme ça? Il n'y aura absolument rien. Les efforts du ministre de l'Agriculture doivent être orientés dans une démarche avec les autres ministères, comme l'industrie, le commerce, etc., pour développer des chaînes de valeur qui vont permettre à l'État de récupérer de l'argent de cette activité-là. Parce que maintenant, M. Marcel, aujourd'hui, si je donne de l'argent à quelqu'un pour produire du manioc, je ne saurai pas rentabiliser ce manioc-là. C'est vrai que nous aurons de la nourriture, oui, mais ce n'est pas rentable.
Voilà, professeur.
On doit continuer comme ça à financer une activité
en vous entendre,
qui ne donne pas de l'argent en retour, non.
Il faut industrialiser les secteurs, c'est bien cela.
Bien sûr, mais les préalables, je vous les ai donnés, les préalables.
Voilà, professeur, on revient à vous.
C'est ce
revient,
qui est en train d'être fait avec le manioc.
Voilà, on revient.
Je pense que si le ministre de l'Agriculture m'écoute, avec ses techniciens, ils comprennent de quoi je parle.
Voilà,
parce que si on investit dans le manioc suffisamment, dans le budget du ministère, si on investit dans le manioc maintenant, même s'il n'y a pas de résultats tout de suite, et dans les années à venir, nous aurons des agriculteurs qui vont être compétitifs.
Voilà, donc c'est déjà une bonne chose d'investir dans le manioc. Parce qu'on revient à vous, les temps voilà. Pour nous d'accorder la parole à notre auditeur, Jérémy Mamba, qui est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour Jérémy Mamba.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à l'invité. Donc, les observations faites par la FAO sont quasiment fondées et n'appellent pas des commentaires dans plusieurs. D'ailleurs, dans plusieurs de mes interventions, j'ai toujours mis l'accent sur les secteurs agricoles qui nous échappent. Alors, je voudrais juste aller tout droit au but parce que nous sommes presque à la fin de notre mission. Je voudrais dire ici, il fallait peut-être que nous puissions nous en remettre. Là, je parle ensemble avec les dirigeants congolais, à ce que dans les budgets qui est alloués au secteur agricole puissent peut-être prendre, si nous avons notre budget dans la globalité, nous allouons au moins les dixièmes de notre budget au secteur aussi épiné comme celui-là. Je pense que nous pouvons désengorger ce secteur qui est en train peut-être de jouer en défaveur de la population parce que nous sommes en train de dire. Peut-être les politiciens, les politiques congolais, tous ceux qui nous dirigent, certains dans la majorité passent pour des mauvais serviteurs comme on le parle dans la Bible de ceux-là qui au lieu de pouvoir fructifier le talent, il l'enfouit. Il l'enfouit.
Mais Jérémy, c'est comme ça Jérémy, que nous Jérémy, aujourd'hui. Jérémy Mamba, vous avez suivi, il y a ceux qui ont fait des propositions. Il y a Maître Patrick Odia qui a parlé d'une banque de crédit agricole, ça pourra quand même aider. Il a également parlé de l'interconnectivité des différents villages et territoires. Mais vous avez suivi le professeur qui a réagi en disant c'est bon d'avoir une banque de crédit agricole, mais il n'arrête pas d'insister, le crédit dans le secteur agricole, ça ne rassure pas toujours les bailleurs ou bien les banquiers par rapport à ce que cela peut donner comme résultat. Alors vous, s'il faut aujourd'hui trouver des solutions dans ces domaines, c'est vrai qu'il faut industrialiser notre agriculture, mais il y a tout de même des paysans qui sont là, des agriculteurs qui sont là. Il y a quelqu'un qui a même évoqué les voies d'évacuation des produits qui posent problème. Vous, qu'est-ce que vous aurez à faire comme proposition?
Voilà, monsieur Marcel, moi je vais tout droit au but. Je vous donne l'exemple. J'ai été à Futuka. C'est pratiquement plus de 60 kilomètres de Lubumbashi. Il y a un patriote, à l'instar de monsieur Moïse Katumbi Tchakwe. Mais moi, je me dis qu'il y a un certain moment, il faut être pragmatique. J'ai trouvé là-bas, en tout cas, ce que je ne pensais pas. Pourquoi? Il a fait des hectares à lui seul. Il y a des hectares et il a fait l'agriculture par irrigation. Il y a même les blés ici. Nous pouvons commencer à consommer du fromage ici, sur place. Il y a le maïs. Et même à côté, il y a l'élevage de bovins. Moi, je me dis, il a mis à peu près 2000 vaches avec 3000 Toro. Et à ce stade, je pense que si chaque député national, le sénateur et tous les dirigeants se liguaient à un seul homme et peut-être dirigeaient toutes nos idées vers une seule direction, je pense que les gens qui souffrent du kwashiorkor qui meurent tout le temps sur le dos des dirigeants peuvent peut-être être sauvés, on peut sauver des vies à partir de ça. Ces messieurs-là qui fait des choses pareilles. Si on met ensemble ces idées, chaque député est contraint, par exemple, à avoir autant d'hectares. Mais nous pouvons résoudre le problème. Ça ne demande pas beaucoup de commentaires. Et voilà. Nous avons aussi les cas. Regardez un peu. Déjà, je voulais terminer.
Oui.
Je termine déjà. Regardez un peu les petits Madagascar. Dans les secteurs agricoles. Mais regardez ce que fait le Madagascar. Mais nous sommes un pays solution. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique. La RDC est à la possibilité, mais nous avons des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Je pense que nous n'allons pas attendre d'aller faire des actions au ciel. C'est ici-bas que nous pouvons le faire. Et pour le faire, il faut prendre la conscience. Donc ici, il faut peut-être que les politiciens interrogent pour dire, même on parle de détournement à gauche, à droite, mais pourquoi ne pas aller même faire des champs? Pourquoi ne pas aller faire des hectares?
Voilà. Merci Jérémy Mamba. On n'a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité, le professeur Jean-Claude Banganga. On vous dit merci à vous, Jérémy Mamba, d'avoir réagi depuis le Lubumbashi. Professeur, on va conclure. Les secteurs agricoles, il y a moyen de le développer, mais comme vous avez dit, c'est un secteur qui doit se développer en mettant de stratégie concernant la chaîne de valeur. Mais il y a ceux qui estiment également qu'en attendant de développer toute cette chaîne de valeur, il faut absolument continuer à encadrer les agriculteurs. Ils sont tellement nombreux, mais il y a ceux qui cherchent seulement à être bien encadrés et surtout également voir dans quelle mesure essayer de réhabiliter tout ce qu'il y a comme voie d'évacuation des produits agricoles pour encourager ces agriculteurs.
Oui, merci beaucoup. Je crois que il y a toujours deux façons de voir la relance dont on parle maintenant. Oui. Parce que si vous regardez, si vous écoutez votre ventre, vous avez besoin que nous puissions emblaver 50 millions d'hectares. C'est bien ça. On peut le faire. Il suffit qu'on mette de l'argent, qu'on achète des tracteurs, etc. Ça, c'est une bonne chose. Nous allons augmenter la production agricole. Oui, on peut le faire, M. Marcel Ngompo. On peut doubler la surface emblavée en RDC, tripler même si vous voulez. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça va résoudre le problème de la faim, mais ça ne va pas résoudre le problème de l'agriculture. Là, je parle des deux choses, parce que souvent quand j'en parle, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Je ne dis pas, je n'ai jamais dit que si on achète 1000 tracteurs, 2000 tracteurs, la production ne va pas augmenter. Bien sûr que la production va augmenter. Et ça va nous servir à manger. Oui, ça va nous servir à manger. Et ça ne résout pas le problème de l'agriculture. Pour résoudre le problème de l'agriculture, il faut l'insérer dans une chaîne de valeur.
Voilà, vous avez beaucoup insisté par rapport à ça.
Simplement là, l'État ne peut pas, Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Nous avons une économie qui est tirée par les matières premières. Donc, si nous demandons à l'État de continuer à investir dans notre agriculture telle qu'elle est maintenant, nous voulons simplement dire, ah, nous produisons les matières, nous produisons les minerais, etc. Nous vendons, et puis nous mettons de l'argent parce que nous voulons manger. Après, on s'endette parce que notre agriculture est incapable de nous donner suffisamment de nourriture. Vous comprenez que nous allons tourner à rond.
Voilà, bon, professeur, on retient...
Si on veut résoudre...
Oui, on n'a plus assez de temps, professeur, mais on retient, vous avez insisté sur la chaîne de valeur, on pourra revenir prochainement par rapport à cette question de l'agriculture, elle est tellement importante.
Je n'ai pas insisté que sur la chaîne de valeur. J'ai dit ceci, puisque tout le monde pleure, tout le monde a faim,
oui,
ben oui, il y a des actions immédiates qu'on peut faire. Ça va? Parce que vous avez commencé à parler de 80 millions de terres arables, c'est bien. Nous pouvons en blaver 40 millions. Si on en a les moyens, mais ça ne suffit pas.
Voilà, ça on a compris.
Le travail de fond qui est en train d'être fait continue à être
fait. Voilà, prochain point, revenir prochainement. On a compris l'essentiel de votre intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Jean-Claude Banganga. Je rappelle que vous êtes expert en agroalimentaire. On espère vous retrouver prochainement.
Merci.
Voilà, fin de ce numéro des paroles aux auditeurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à William Lungamba, qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda, qui l'a réalisé, coordonné au micro. C'était Marcel Ngomomba. Le plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de paroles aux auditeurs. D'ici là, poursuivez le programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.